Ah ouais, moi j'ai un méchant problème avec les infos. Écoutez bien, l'information est totalement manipulée.
Canu Info.
Radio Canu, 102.2.
Bonjour. Les Canu Info, du mercredi.
Bonsoir, il est presque 19h05, vous êtes toujours sur le 102.2 et c'est les Canu Info qui commencent pour aujourd'hui une soirée d'information légèrement désorganisée, mais on est là quand même, pour certaines voix à distance, pour d'autres en direct. Et voilà, alors de quoi parlera-t-on ce soir? On aura quelques brefs pour commencer. Puis on se demandera pourquoi dans les manifs de Kurdes on entend Macron complice. On fera une petite pause musicale. Ensuite, on parlera du frère de Nathalie Debailly, qui a été tué par son ex-compagnon à Lille. Donc son frère donc porte plainte contre la police. On ira en Floride pour observer la gestion catastrophique d'un bassin d'eau usé. Et puis, il y a 17 ans et un jour, le génocide rwandais, la France n'était pas aveugle, elle était complice. Enfin, on terminera avec un petit agenda, avec notamment une manifestation sur Lyon pour la fermeture des CRA. On vous en dira plus tout à l'heure. Et on commence tout de suite avec quelques brèves.
Ça fait ouf. Tiens, j'aurais qu'à commencer par la meilleure blague de la semaine. Alors, vous avez capté que les écoles sont à nouveau fermées, tout le monde devra faire des cours à distance, bon, comme, et que ce qui se passe, c'est que comme au moment du premier confinement, tous les sites internet de l'éducation nationale plantent. Mais contrairement au premier confinement, le ministère a eu un an pour se préparer. Pendant cette année, Blanquer nous a expliqué à plusieurs reprises que de toute façon tout était prévu, qu'il fallait, alors que bien sûr il fallait éviter un au max de fermer les écoles, mais si ça devait se produire, si jamais ça devait se produire, tout était prêt. Bon, ça se produit et tout plante. Alors, pour celles et ceux qui n'auraient pas écouté la propagande gouvernementale ces deux derniers jours, sachez que c'est pas la faute du ministère, c'est la faute des attaques informatiques des pirates russes. Voilà. Aucun commentateur n'arrive à prendre l'argument au sérieux. Alors les plus polis le relayent avec des guillemets, hein, ils citent Blanquer. Les moins polis, bah, ils font comme moi, ils se foutent ouvertement de sa gueule. Voilà, bah écoutez, il paraîtrait que si la campagne de vaccination est si merdique, ça serait de la faute des Illuminati et des judéo-musulmans.
Radio Canu. 102.2.
La plus rebelle des radios.
Canu Info.
Ce week-end, en réponse à l'appel national à la grève lancée par la CGT et, aux surprises, par aussi la CFDT, des milliers de salariés du groupe Carrefour ont répondu présents et présentes en réclamant des augmentations de salaire, des embauches en CDI et non en contrat précaire et de meilleures conditions de travail. Il y a quelques semaines, la direction de Carrefour annonçait avec fierté que l'année 2020 était une année record pour le groupe, la meilleure depuis au moins 20 ans. Mais ces résultats qui rendent les patrons fiers, les travailleurs travailleuses n'en voient pas la couleur. La direction ne propose que 0,9% d'augmentation, ce qui représente, attention, 42 centimes d'euros par jour. La direction refuse également de verser la prime promise par Macron, une prime de 1 000 euros qui était quand même, voilà, qui ne permettait pas de cotiser au chômage, ou voilà, qui a tous les défauts d'une prime. Alors, les grévistes dénoncent également le plan de 2018 qui a amené à la suppression progressive d'environ 12 000 postes. Et enfin, ce week-end, des dizaines de magasins devraient... Enfin, alors, c'est pas prévu pour ce week-end, mais c'était prévu. Des dizaines de magasins devraient passer en location-gérance, ce qui amènera des baisses de rémunération. Et donc, ce week-end, les salariés étaient regroupés pour protester contre ça. C'est une grève qui a été largement suivie, puisque plusieurs magasins ont été contraints de fermer, comme à Lormont ou à Givors, à côté de Lyon. D'autres ont vu se mettre en place des barrages filtrants par les grévistes, d'autres simplement un rassemblement devant le magasin. Partout en France, en tout cas dans les Landes, le Calvados, l'Hérault, la région lyonnaise, en Gironde, partout le fonctionnement des magasins a été perturbé de façon très visible. Et puis une nouvelle journée de mobilisation sera prévue demain à Paris uniquement devant le siège du MEDEF avec les grévistes de la région parisienne.
Canu Info. Du mercredi.
Vous avez dû entendre parler de cette histoire, ce reportage qui a été diffusé vendredi dernier sur M6, sur des dîners de luxe clandestins, caviar, champagne, menus de grands chefs et retrait du masque obligatoire. Ces dîners qui ont lieu, qui avaient lieu, qui ont eu lieu, on ne sait pas, qui ont toujours lieu peut-être à Paris, clandestinement, pendant que les restaurants, eux, sont officiellement fermés. C'est des dîners pour les gens qui ont vraiment beaucoup, beaucoup de thunes. Une partie de la polémique a porté sur le fait qu'un des convives ou organisateurs, en tout cas on ne s'est pas bien interviewé, dit dans le reportage que les ministres qu'il y a des ministres qui viennent assister à ces dîners, qui viennent partager ces dîners. Alors deux jours plus tard, deux jours après le reportage, le bonhomme est identifié et décrédibilisé. Parce que, bon, par ailleurs, c'est vrai qu'il est déjà connu pour être une sorte de crétin d'extrême droite, un peu amateur de provocation. Et puis lui-même s'est rétracté. Hier quand même, la Société des journalistes de M6 a expliqué qu'elle avait eu confirmation de la présence d'au moins un membre du gouvernement à au moins un de ces dîners, confirmation par d'autres témoignages mais qui ont été faits hors micro. Tout ça, bon, on pourrait dire, ce serait quand même pas complètement passionnant. Je vous en parle surtout pour mentionner la réaction de Gérald Darmanin hier. Parce que Gérald Darmanin, lui, a parlé d'une rumeur qui, je cite, « sape les fondements de la démocratie ». Gérald, est-ce que c'est vraiment l'information le danger pour la démocratie? Et est-ce que t'as rien à dire par contre sur les pratiques comme sur les discours des membres du gouvernement, invariablement méprisants, invariablement dans leur tour d'ivoire et invariablement hors d'atteinte des lois qui s'appliquent au reste des mortels?
Info.
Enfin, quand je parle du reste des mortels, il y a quand même une autre catégorie de gens bien moins riches, mais pour qui les lois sont aussi une sorte de vague indication dont le respect est complètement optionnel. Je veux parler des flics. Et l'exemple d'aujourd'hui, c'est aussi des histoires de règles sanitaires. Alors ça se passe à Limay, dans les Yvelines, où une vingtaine de flics du même commissariat ont été testés positifs au Covid. Pourtant, pendant le boulot, les gestes barrières sont plus ou moins à peu près appliqués. Alors quoi? Eh bien, c'est que le 26 mars, ces flics se sont réunis pour un barbecue. Pile poil les mêmes flics qui ont été positifs une semaine plus tard. Alors, réunis pour un barbecue, ça veut dire qu'ils étaient tous ensemble dans un espace serré sans masque. Alors, c'est presque banal, mais on peut juste en profiter pour rappeler les gens qui se font verbaliser pour une bouteille de rosée partagée sur une plage, ceux qui se font verbaliser aussi parce qu'ils traînaillent à droite, à gauche et boivent un coup, parfois sous la menace d'armes à feu, parce que les flics arrivent hyper armés, ça se passe ici et là, ou ceux qui se font emprisonner pour avoir organisé une rave party lors de laquelle personne n'a été contaminé, c'est l'histoire entre Noël et le jour de l'an l'année dernière. Là, c'est des flics. Il n'y aura aucune verbalisation, aucune poursuite pénale. Il y aura, figurez-vous, une enquête administrative confiée à l'IGPN. Ce qui ferait toujours rire si c'était pas aussi triste.
Canu Info.
Les Jeux Olympiques se préparent à Paris et on en parlait il y a quelques semaines. L'idée d'en faire des Jeux économiquement et socialement responsables, entre guillemets, a déjà du plomb dans l'aile. On évoquait surtout l'expulsion d'un foyer de travailleurs migrants à Saint-Ouen qui oubliait d'en reloger 46, qui imposait aux autres habitants de ce foyer un Algeco pendant 2 ans. Et puis qui prévoyait qu'après le village des athlètes, leur quartier sera transformé en éco-quartier dédié à l'entrepreneuriat. Pas question donc qu'ils y reviennent. À Aubervilliers, pour accueillir piscine d'entraînement et solarium, ce sont aussi plusieurs hectares de jardins ouvriers qui se feront bétonner et seront encore une fois transformés en éco-quartier. Etc, etc. Les exemples abondent pour ces jeux économiquement et socialement responsables qui expulsent les pauvres et contribuent à gentrifier la région parisienne. En Seine-Saint-Denis, les travaux du village des médias, qui lui aussi, après les Jeux Olympiques, devrait être reconverti en, devinez quoi, en éco-quartier, avaient déjà commencé, prévoyant de raser une partie du parc départemental Georges Valbon. Mais alors, hier, la Cour administrative d'appel de Paris a suspendu une partie de l'autorisation environnementale qui avait été délivrée en novembre 2020 par le préfet de Seine-Saint-Denis. L'autorisation préfectorale est remise en question pour la raison qu'il ne, je cite, « satisfait pas les dispositions du Code de l'environnement » dans la dérogation qu'il accorde à l'interdiction d'atteinte des espèces protégées. En clair, suspension des travaux et il faut refabriquer tout ça. L'alerte avait été lancée en février par l'antenne locale du Mouvement National de Lutte pour l'Environnement et le collectif pour le Triangle de Gonesse qui avait déposé un recours contre ce projet devant donc la Cour administrative d'appel de Paris. Alors on ne sait pas encore si ce sera un nouveau terrain qui sera choisi. Si c'est le cas, quel nouveau terrain sera choisi pour le village des médias? Est-ce que ce sera un quartier de barres d'immeubles? Est-ce que ce sera un hôpital inutile? En tout cas, pour le moment, maigre victoire, mais victoire tout de même pour ces deux assos qui obtiennent la préservation du parc tant que l'arrêt préfectoral ne sera pas plus respectueux de l'environnement.
Radio Canu. Canu Info. Du mercredi.
Alors, nos amis du Canu Info du lundi vous en ont déjà parlé lundi dernier, mais on va un petit peu revenir sur l'attaque du local des Kurdes samedi à Lyon par des fascistes turcs. Alors, pour les gens qui n'ont pas écouté les infos sur Canu lundi, on va revenir d'abord un peu sur les faits. À Lyon, dans le 7e arrondissement, il y a le local de l'association La Maison de la Mésopotamie. C'est une association culturelle kurde. Ici, bien sûr, quand on dit culturel, il faut le comprendre comme une revendication en réalité politique. Et c'est une association où il n'est pas seulement de question de faire des danses traditionnelles en se tenant par le petit doigt sur des musiques un peu pénibles. C'est bien le local d'une organisation de lutte composée principalement de Kurdes, mais où passent aussi des militants et militantes pas du tout kurdes, des anars du coin, différentes espèces de gauchos et des turcs aussi, sympathisants, sympathisantes. Parce qu'il s'agit de politique et pas d'un truc ethnique. On a déjà reçu dans ce Canu Info des gens de la maison de la Mésopotamie, par exemple. Alors, samedi dernier, le local a reçu la visite d'une vingtaine de types avec des cagoules et des armes blanches. Les 4 gars qui étaient à l'intérieur du local se sont fait défoncer la gueule à coups de batte de baseball et de poing américain. Le local aussi a été défoncé et les assaillants, entre eux, ils parlaient turc. Le 20 mars déjà, c'est-à-dire quoi, 15 jours plus tôt, le collectif Solidarité Kurdistan organisait une manif place Bellecour. Après la manif, alors pendant que par ailleurs certains militants étaient en train de courir vers la librairie La Plume Noire à la Croix-Rousse, qui venait d'être attaquée, elle, par des fachos, tout ce qui est plus français pour ce cas-là, du coup des militants kurdes allaient défendre la librairie, mais pendant ce temps, une poignée d'autres militants kurdes, et plutôt soit des très vieux, soit des très jeunes, rentraient, eux, vers le local. Le local de la Mésopotamie. Et sur le trajet, eh ben, une vingtaine de gars les attendaient pour les passer à tabac. Et du coup, baston à ce moment-là. Dans la nuit qui a suivi, des graffitis menaçants ont été tagués sur le local. Des graffitis où c'est écrit RTE comme Recep Tayyip Erdogan et où c'était écrit en particulier en turc « Tenez-vous sage ». Ces graffitis laissaient aucun doute sur leurs auteurs. Il s'agissait bien des loups gris. Les loups gris, qu'est-ce que c'est? C'est une vieille organisation fasciste turque dont les militants partout dans le monde font les gros bras du nationalisme turc. Alors pour faire une toute petite seconde d'histoire des groupes et des idéologies en Turquie, les loups gris et globalement les nationalistes turcs ont été plutôt opposés à Erdogan au début de quand il arrivait au pouvoir. Parce que le fascisme turc était traditionnellement très laïcard, alors que Erdogan, c'est un islamiste. Mais à un moment des années, je sais plus bien quand, là, du milieu des années 2000, Erdogan a vraiment pris son tournant nationaliste. Il est resté islamiste, mais il a vraiment pris le tournant nationaliste pur et dur, et en particulier dans sa gestion des histoires avec les Kurdes. Où il s'est mis dans la répression des Kurdes, plus. À ce moment-là, ma foi, les fascistes lui ont pardonné ses rapports avec Dieu et les imams, et ont accouru vers lui. Donc de nos jours, les loups gris, ils soutiennent à fond Erdogan. Alors maintenant, après avoir raconté ce qui s'est passé le week-end dernier, on va revenir un peu en arrière pour comprendre pourquoi, par la suite, les manifestants kurdes, suite à cette dernière attaque, ont organisé une manif très rapidement. Et pendant cette manif, pourquoi est-ce qu'ils criaient « Macron complice » ? Eh ben oui, parce que les loups gris, alors voilà, les loups gris, eux, ils ont défrayé la chronique l'été et l'automne dernier. En quelques jours, il y a eu plusieurs actions coup de poing en France qui avaient attiré l'attention des médias, en particulier l'attaque à coups de barre de fer au mois de juillet d'une manifestation arménienne dans le cadre à l'époque de la guerre dans le Haut-Karabakh. Donc voilà, guerre dans le Haut-Karabakh, les Arméniens de Dessine manifestent pour soutenir l'Arménie dans cette guerre, et là, les loups gris attaquent le rassemblement et l'attaquent vraiment à coups de barre de fer. Vers la même période, il y avait eu des campagnes de tag, par exemple sur le mémorial du génocide arménien. En octobre, grosse démonstration de force sous forme d'un défilé, encore une fois à Dessine, qui appelait à la violence contre la communauté arménienne. Tout ça, c'est les loups gris. Et bon, à l'époque, le gouvernement français avait réagi, ma foi, assez fermement. Plusieurs hommes et femmes politiques s'étaient exprimés pour condamner ces actions. Même Darmanin avait fait les gros yeux, hein, et l'organisation des loups gris avait été officiellement dissoute par le Conseil des ministres le 30 septembre. Donc en France, théoriquement, les loups gris n'existent plus. Théoriquement juste. C'était l'époque où Macron et Erdogan, le président turc, ne se parlaient que par médias interposés et surtout que pour s'échanger des noms d'oiseaux. Alors Macron levait un doigt grondeur pour faire gendarme contre la Turquie dans des embrouilles d'eau territoriales entre la Turquie et la Grèce, par exemple. Erdogan pointait l'islamophobie de la France, Macron se scandalisait des atteintes aux droits de l'homme en Turquie, et Erdogan de la répression ultra-violente des manifs de gilets jaunes, le tout avec différentes sortes d'insultes, voilà. Entre-temps, les deux chefs d'État se sont réconciliés. Le 18 mars, les deux présidents ont eu une longue et fructueuse conversation au téléphone, très médiatisée dans les deux pays, et se sont finalement serré la paluche, ils étaient redevenus copains. Là, tous les militantes et les militants de la cause kurde en France savaient que ça sentait le roussi. Parce que dans l'histoire des embrouilles et des réconciliations diplomatiques entre la France et la Turquie, on sait qu'à chaque moment de réconciliation entre les deux pays, y a une bonne vague de répression qui s'abat en France sur qui ? Sur les Kurdes. Ça marche à tous les coups. Cette réconciliation, la dernière avait sans doute déjà été préparée quelques semaines à l'avance. Par les services français, on a su dans les milieux kurdes que machin, qui était allé à la préfecture pour un renouvellement de carte de séjour par exemple, bah ma foi, il avait passé un moment dans une pièce à devoir répondre à des questions sur les personnalités en vue des associations militantes kurdes. Que Bidule, qui avait été arrêté pour une connerie, avait eu droit à un gros interrogatoire, non pas sur sa petite histoire à lui, mais sur les orgas kurdes. Et bim, ça a pas raté. Le coup de fil de la, du retour de la bonne entente entre les deux présidents, c'était le 18 mars. Et ben, le 23 mars, c'est-à-dire une semaine après, des locaux associatifs kurdes ont été perquisitionnés dans toute la France, à Paris, à Marseille, à Draguignan. Une dizaine de militants ont été arrêtés. Le communiqué des objecteurs de conscience turcs en France, qui revient là-dessus, parle de raids aussi violents que ceux que nous avons connus en Turquie. Et moins d'une semaine plus tard, après cette vague d'arrestations, en plein centre-ville de Lyon, un local est attaqué, est mis à sac, 4 personnes sont gravement blessées, dont une qui est encore hospitalisée à l'heure où je vous parle, le tout signé par une organisation qui est légalement dissoute en France. Et cette fois-ci, alors là, aucune réaction officielle. Macron, pas un mot, Darmanin, pas un mot, personne ne moufte. De toute la classe politique, il y a seulement quelques voix un peu au PC, ou disons les moins ripoux de la France insoumise, quand je dis ça je veux dire Clémentine Autain, qui se forment d'une déclaration de soutien. Comme le souligne le MRAP dans son communiqué, les 26 000 Kurdes tombés dans la guerre contre Daesh en défendant l'Occident ont été bien vite oubliés.
Et on va enchaîner avec une petite pause musicale, c'est Fermin Muguruza, avec un morceau qui s'appelle « New Rose ».
Try to hit the present.
Nathalie Debailly, c'est le nom d'une femme qui est morte le 27 mai 2019. Elle est morte non pas selon la formule consacrée sous les coups de son ex-compagnon, mais bien enlevée et égorgée par son ex-compagnon. Alors celui-ci est sous les verrous depuis cette époque, il a été arrêté deux jours après, mais aujourd'hui c'est contre la police que le frère de Nathalie porte plainte. La police que Nathalie est allée voir 4 fois pour déposer des mains courantes, pour déposer une plainte, pour demander une protection, mais la police qui n'a jamais levé le petit doigt pour Nathalie. En mai 2019, donc, l'époque de la mort de Nathalie, MeToo changeait déjà la société française, mais MeToo ne changeait pas la police française. Alors, l'histoire, voilà, comme ça arrive souvent dans l'hétérosexualité, Nathalie Debailly était tombée amoureuse d'un relou cinglé et violent. Jérôme Tonneau, c'est le nom du gars. Comme ça arrive moins souvent, c'est vrai, mais de manière pas non plus complètement exceptionnelle, il l'a tuée parce qu'il supportait pas qu'elle le quitte. Il a payé 3 types pour l'enlever, l'a ramené chez lui, et là, il lui a tranché la gorge et les veines des poignets avec un cutter. Aujourd'hui, très peu de journaux relayent la plainte du frère de Nathalie Debailly. On trouve un article détaillé dans Le Monde, article où on suit le processus. Alors, je vais pas vous le faire complètement dans le détail, hein, mais en résumé, elle le largue, il la menace, il la harcèle, il la suit dans la rue, chez elle, à son boulot. Il déclare à un ami commun qu'il voudrait passer par les jardins ou le toit pour rentrer chez elle. Ça, c'est une citation de la première main courante. Après, à un moment, il fait une TS, il est interné. Pendant l'internement, il avait dit à ses amis qu'il me mettrait bien dans un coffre de voiture pour me mettre un coup de pression, que je devais faire attention car il allait rôder avec des intentions pas louables. Il aurait également dit vouloir me buter, puis dans le fil de la même conversation, il aurait dit vouloir se procurer une arme. Cette fois-ci, c'est bien écrit dans la plainte qu'elle dépose quelques temps plus tard. Donc les flics avaient tout ça. Encore un peu plus tard, il doit venir récupérer des affaires chez elle. Elle va au commissariat avant. Elle prévient les flics du jour, de la date et de l'heure. Elle demande si une patrouille pourrait pas passer à ce moment-là parce qu'elle flippe. Conclusion du flic qu'il a écrit dans son rapport après le passage de madame. Je cite « Aucune mesure de protection n'est à mettre en œuvre, mais nous avisons la victime à faire appel à nos services dès qu'elle le jugera nécessaire. » Bonhomme, elle venait juste de le juger nécessaire. Apparemment, ça ne servait pas à grand-chose. C'est le Canu Info, c'est pas la Gazette des Tribunaux. Je vais arrêter là les détails. Toujours est-il que donc elle a été tuée quelque temps après cette histoire de clé là et de flic qui jugeait rien nécessaire. Mais après sa mort, donc enlevé et égorgé, hein, le flic qui auditionne le frère de Nathalie lui dit, ouvrez les guillemets, vous savez monsieur, si vous voulez la tuer, on ne pouvait rien y faire, il l'aurait fait de toute façon. Comme ça au moins c'est clair. Pour celles qui croyaient que la police était là pour protéger les victimes, la phrase du flic est une réponse limpide. Si vous voulez la tuer, on ne pouvait rien y faire, il l'aurait fait de toute façon, bim. Au moins la police, c'est clair, ne sert à que dalle. Enfin, ou en tout cas pas à ça. Donc, en 2019, on a dit la France était déjà agitée par des débats autour des violences sexistes, des violences sexuelles et des féminicides. C'était l'époque où on préparait le Grenelle de violences conjugales. Mais la police est toujours un peu en dehors des débats de société, ou disons que si elle est dedans, elle est toujours un peu du côté zémourien, on pourrait dire. Alors, il n'existe nulle part de statistiques des violences conjugales commises par des flics ou des gendarmes. Mais depuis, le livre qui s'appelle « Silence, on cogne », livre de Sophie Boutboul sur les violences conjugales commises par des flics ou des gendarmes, on sait que c'est un phénomène massif. D'ici à penser que le flic moyen a une certaine compréhension pour les mecs violents...
Canu Info. Du mercredi.
Dans la baie de Tampa, en Floride, un réservoir d'eau usée, basé sur le site industriel de Piney Point, une ancienne usine de phosphate, le réservoir donc menace de rompre, et ce qui entraînerait une immense inondation et un possible désastre environnemental. Le revêtement plastique de ce réservoir contenant plus d'1 million de mètres cubes d'eau usée, issue de dragage ou d'eau de pluie notamment, a commencé à fuir il y a plusieurs jours. Tout en communication, le gouverneur Ron DeSantis a survolé le site en hélicoptère dimanche, a annoncé l'état d'urgence et le déblocage de fonds pour éviter la catastrophe, pendant que plus de 300 maisons ont reçu l'ordre d'évacuer dans cette zone. emphatique, ils somment également l'entreprise gestionnaire du site, HHK Holdings, de rendre des comptes. En attendant que cette entreprise daigne lever un doigt, les autorités ont tenté sans succès de colmater la fuite et pompent désormais de l'eau hors des réservoirs depuis la semaine dernière, afin d'y réduire la pression au rythme de plus de 100 000 m3 par jour. Le gouverneur a assuré que l'eau avait été testée avant d'être évacuée et qu'elle était principalement composée d'eau saline, qu'elle répondait aux standards de qualité pour l'eau marine, à l'exception tout de même du phosphore et de l'azote et des nutriments. Alors c'est pas rien, mais a priori, il estime que ça rassure tout le monde. Certains ont quand même émis les craintes que ces nutriments n'aident au développement d'un phénomène qui est assez connu dans cette région du Golfe du Mexique, une marée rouge, c'est-à-dire une prolifération d'algues donnant à l'eau une apparence rouge et menaçant d'asphyxier la vie marine. Les inquiétudes se concentrent par ailleurs autour des stocks de phosphogypse sur les lieux, un sous-produit qui est issu de la fabrication d'engrais et qui est considéré comme faiblement radioactif. Ce grand tas de phosphogypse menace d'être entraîné en cas d'inondation et donc de contaminer l'écosystème environnant. Alors l'usine n'est plus en activité du coup depuis 2001. La responsable en charge de l'agriculture en Floride, Nicole Fried, rappelle que depuis 50 ans, cette industrie minière a causé de nombreux problèmes écologiques et de santé publique et que le revêtement du réservoir avait déjà cédé par le passé. Mais HHK Holdings, qui est donc censé gérer le site, a tout l'air de s'en laver les mains.
Canu Info.
Ça fait aujourd'hui 27 ans et un jour qu'a commencé le génocide rwandais. Il y a une paire de semaines là, est sorti ce rapport qui s'appelle le rapport Duclert. Le rapport Duclert qui est le rapport rendu par ses historiens, mandaté par Emmanuel Macron, pour se pencher sur les archives et établir exactement le rôle de la France dans cette affaire. Alors le rapport Duclert est souvent présenté comme un rapport un peu accablant pour la France, mais en réalité ce rapport parle de responsabilités lourdes de la France, mais ne parle surtout pas, c'est-à-dire dément l'idée de complicité. Ce qui en soi est un peu problématique. Mais alors y a un enjeu autour de cette histoire du mot de complicité, c'est que si on parle de complicité, ça veut dire des conséquences juridiques. Or, La personne qui est certainement dans les décideurs de l'époque, la personne la plus coupable, c'est François Mitterrand, et lui, il est clamsé, on ne pourra pas le poursuivre. Par contre, des Alain Juppé, des Hubert Védrine, ou quelques personnes de l'armée, en particulier ce général Quesnot, eux étaient aux manettes à l'époque, eux ont pris un certain nombre de décisions en toute connaissance de cause qu'il est difficile de ne pas qualifier de complicité, voire de co-organisation du génocide. Alors, je ne vais pas revenir sur toute l'histoire du Rwanda depuis la fin du 19e siècle, qui est intéressante pour comprendre comment est montée cette histoire d'ethnie et comment est-ce qu'elle a été, pas exactement créée, mais enfin quasiment créée par le colonialisme, d'abord allemand, puis belge. Et puis, en 1990, c'est le moment où la France est arrivée dans le jeu. La France qui s'est mise du côté du gouvernement rwandais, qui lui était un gouvernement d'apartheid, un gouvernement qui se revendiquait comme un gouvernement Hutu. Pendant ce temps, les massacres de Tutsis avaient commencé dans les années 60, et un certain nombre de Tutsis avaient fui le pays. Une partie est arrivée en Ouganda, et une partie en Ouganda, c'est-à-dire plutôt la deuxième génération, avait l'idée de rentrer au Rwanda, mais pas rentrer pour s'y faire massacrer, mais rentrer en force, de manière à instaurer un gouvernement qui ne soit pas un gouvernement ethnique. C'est-à-dire que, quand on entend aujourd'hui les commentateurs qui parlent de l'époque, ils parlent des Tutsis du FPR. En réalité, le FPR était une armée, une guérilla, qui n'était pas ethnique. Bien sûr, elle était majoritairement composée de Tutsis, vu les circonstances, mais il y avait aussi des Hutus dans le FPR, il y avait aussi des Hutus dans le commandement du FPR. Bon, en tout cas, en 1990, le FPR tente une attaque du Rwanda. Cette attaque est repoussée parce que le gouvernement rwandais fait appel à l'aide militaire de la France. La France y va, arrête le FPR, et à partir de ce moment-là, démarre une collaboration qui va durer 4 ans, une collaboration extrêmement fructueuse entre la France de François Mitterrand et le gouvernement rwandais, qui était à l'époque le gouvernement du président Habyarimana, et qui était un gouvernement, complètement un gouvernement d'apartheid. C'est-à-dire vraiment un gouvernement qui faisait une hiérarchie claire et officielle entre les Hutus, qui étaient le haut du panier, et les Tutsis, qu'on appelait aussi des Inyenzi, c'est-à-dire des cafards. Bon, alors il se passe des tonnes de choses. En tout cas, pendant ces 4 ans, de 90 à 94, c'est en partie des conseillers militaires français, mais en partie aussi des mercenaires français. Et en fait, souvent les mercenaires français sont utilisés par les gouvernements français pour aller dans des endroits, faire des boulots que le gouvernement peut pas assumer directement. Donc du coup, c'est des sociétés de sécurité privée, ça s'appelle, qui vont s'occuper de ces boulots dans des pays où c'est ça, où la France peut pas complètement faire tout ce que ferait des trucs privés, donc qui officiellement n'ont rien à voir avec le gouvernement. C'est ces militaires et ces mercenaires qui ont formé, d'une part, l'armée rwandaise, dont le nombre a été multiplié, je ne me rappelle plus, mais peut-être par 10 pendant ces 4 ans, qui l'a armée, qui a fait de la thune pour les armes, et qui ont aussi entraîné et armé les milices du parti au pouvoir, les milices Interahamwe, qui, par la suite, ont été vraiment le bras armé du génocide à côté des forces armées rwandaises, l'armée, c'est-à-dire tous des gens formés par l'armée française. Bon, il y a eu de la thune qui a été donnée. Après, en 1994, à un moment, le président Habyarimana revient d'un sommet en France, où il s'est entretenu avec Mitterrand. Son avion est descendu par un missile jusqu'à aujourd'hui. On ne sait pas qui a tiré le missile. On ne sait pas, il y a eu mille enquêtes, il y a eu mille conclusions, il n'y en a pas une qui tient la route de manière absolue. Peut-être que... Alors, une hypothèse possible, c'est que c'est le FPR, donc l'armée qui vient d'Ouganda, qui l'aurait descendu. C'est pas tout à fait impossible, auquel cas ça serait un acte de guerre. Par contre, une autre hypothèse largement aussi valable, c'est que c'est peut-être des Rwandais qui, eux, voulaient démarrer le génocide et qui trouvaient que Habyarimana n'allait pas assez vite, voire peut-être, avec une complicité de militaires ou de mercenaires ou des deux français, qui auraient tiré ce missile qui a descendu l'avion. Et dans ce cas, c'est pas un acte de guerre, dans ce cas, c'est clairement un outil pour déclencher le génocide. Là-dessus, quelques heures après que l'avion du président ait été descendu, les massacres commencent. Et ils commencent tellement partout dans le pays, tellement immédiatement et de manière tellement organisée qu'il n'est pas du tout possible de parler, comme on a beaucoup essayé de le faire à l'époque, d'une sorte de montée spontanée de violence des braves Rwandais qui auraient voulu venger leur président en égorgeant leurs voisins. Bon, et là-dessus, ça y va. Le génocide dure 3 mois. Pendant ces 3 mois, il y a, alors selon les historiens, 800 000, 1 million, un peu plus de 1 million de personnes qui sont tuées. Donc massivement des Tutsis, pas que, parce que des Hutus qui s'opposaient au massacre ont eux aussi été tués. Et en particulier, dès le premier jour, il y avait des listes de Hutus qui ont été tués dans les premières 24 heures. Des listes qui avaient été préparées à l'avance. En tout cas, pendant tout ce temps-là, pendant ces 3 mois, alors il faut quand même savoir que c'est le plus efficace de tous les génocides de l'histoire de l'humanité. Hein. Tuer autant de gens en aussi peu de temps, les nazis européens, les nazis allemands n'ont pas fait mieux. En moyenne par jour, c'est un truc qui est complètement inégalé et de loin. Toujours est-il que pendant ces 3 mois, le gouvernement français n'a jamais lâché un soutien diplomatique et militaire. Alors militaire si en partie, parce que ils ont ce qui s'est passé dans les tout premiers jours, c'est que sous couvert de oh là là c'est trop le bordel, la France a envoyé des avions militaires pour rapatrier tous les Français qui étaient au Rwanda, en sachant que là aussi certains Français étaient mariés à des Tutsis et que dans ce cas, alors si des Français étaient mariés à des Européens par exemple sur place, toute la famille était emmenée. Si des Français étaient mariés à des Tutsis, seul le conjoint ou la conjointe française était rapatrié, mais le conjoint ou la conjointe Tutsi était laissé sur place, à la merci des massacreurs. Mais ceci dit, à ce moment-là, l'armée a été massivement rapatriée en France. Il semble quand même, d'après tout un certain nombre d'enquêtes, de témoignages, de découvertes des journalistes dans les 27 dernières années, qu'un certain nombre de conseillers militaires, en tout cas, soient restés sur place. Bon, pendant le génocide, il se passe encore... Alors, je vais pas donner tous les 1000 indices de cette histoire de complicité. Mais je vais en donner un, tiens, j'en donne un. Pendant le génocide, le colonel Kayumba... je vais en donner un autre avant. C'est que, juste après la mort du président, il fallait un gouvernement pour ce pays qui, par ailleurs, était dans un état de guerre, un état de bordel, tout ça, il a fallu un gouvernement. Faire très vite un gouvernement. Ce gouvernement a été formé, où ça ? Dans les locaux de l'ambassade de France, sous la houlette de l'ambassadeur de France. C'est-à-dire que tous les hommes politiques qui, dans les 3 mois qui viennent, vont orchestrer ce génocide, se retrouvent ensemble à l'ambassade de France pour décider d'un gouvernement, ce qu'ils appellent un gouvernement intérimaire, c'est-à-dire le gouvernement en attendant que la situation se calme et qu'on puisse organiser des élections. Un gouvernement, là maintenant il faut quelque chose, hop, on se réunit, où ça ? À l'ambassade de France, et on forme ce gouvernement. L'ambassadeur de France est là, il donne sa bénédiction au truc, les gens ressortent et organisent donc les tueries. Quelques semaines plus tard, le colonel Kayumba, lui, vient à Paris. Le colonel Kayumba, envoyé par ce gouvernement intérimaire, vient à Paris et il y séjourne plusieurs semaines pour y négocier des armes. Il faut aussi comprendre, c'est ça, que la France avait mis un enjeu énorme sur le Rwanda depuis 4 ans et que le Rwanda était kafi. Non seulement de militaires, mais de toutes sortes d'agents des services spéciaux, d'agents d'information, de mille expatriés français, dont le taf était de relayer l'information, de donner de l'information au gouvernement d'une part, en sachant que c'est une période de cohabitation en France, c'est-à-dire qu'il y avait le président Mitterrand, qui avait la haute main sur la politique africaine et sur l'armée, parce que c'est le rôle du président, et les ministres qui avaient aussi un rôle dans ce que faisait l'armée et qui étaient des ministres de droite, où le premier ministre était à l'époque Édouard Balladur. Mais Juppé était aussi ministre à ce moment-là et complètement dans la décision de ces trucs-là. Donc ce colonel Kayumba vient à Paris et là il négocie des armes. Les livraisons d'armes commencent après le 17 mai, c'est-à-dire un mois et 10 jours après le début du génocide. Un mois et 10 jours après le début. Jour après jour, Mitterrand avait un rapport précis sur ce qui se passait au Rwanda à ce moment-là. Un mois et 10 jours après, des livraisons d'armes de la France au gouvernement intérimaire commencent. Il y en aura 5. C'est un petit exemple de la manière dont la France n'a pas été aveugle. La France a été complice. La France a été hyper complice. Après, la France finit par décider d'une opération qu'elle appelle une opération humanitaire. C'est l'opération Turquoise. Et l'opération Turquoise, alors au départ, Mitterrand, il voulait trop y aller parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est que le FPR était en train de gagner la guerre. Les gens qui arrivaient d'Ouganda, cette guérilla qui arrivait d'Ouganda, était en train de tout défoncer et de dégager petit à petit ce gouvernement intérimaire, ces forces armées rwandaises qui, elles, étaient trop occupées à massacrer des civils pour faire la guerre. Donc là, le FPR avance et Mitterrand est dégoûté du fait que le FPR avance et il veut les arrêter. Et donc il a très envie d'envoyer l'armée française pour les arrêter. Mais là, quand même... Il y a un peu des gens qui lui disent « Non mais là, quand même, là, ça va finir par se voir. » On a aussi plusieurs témoignages, par exemple. On a un enregistrement audio de la radio qui s'appelait Radio des Mille Collines, qui était la radio en langue Kinyarwanda, qui était une radio qui organisait les tueries, qui disait « Attention, sur telle route, il faudrait plus de monde parce qu'il y a des Tutsis qui essayent de passer, des choses comme ça. » Cette radio, à un moment, elle dit « Nos amis français nous aident, nos amis français vont continuer à nous aider, mais ils demandent qu'on cache les cadavres, qu'on arrête de tuer sous les yeux des caméras et qu'on fasse en sorte que les cadavres ne soient pas aussi visibles. » C'est ça qui se passe. Et donc, c'est le moment où François Mitterrand... Alors, où il faut aussi dire qu'à ce moment-là, les médias en France disent « bah c'est l'Afrique, de toute façon, il y a deux ethnies, ils s'entretuent, c'est comme ça depuis toujours. Là, c'est un peu massif, c'est un peu vraiment la boucherie. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, ils sont comme ça. » Et donc, il y a une confusion qui est entretenue entre les tueurs et les tués. Un peu comme si, en parlant de la Shoah, on disait « bah vous savez, l'ethnie des Allemands et l'ethnie des Juifs, ils sont toujours entretués. » C'est un peu ça le principe. Mais là, en réalité, c'est bien les Hutus, du Hutu Power, c'est-à-dire vraiment l'équivalent des nazis des Hutus, qui tuent les Tutsis, et c'est tout. Pardon, j'en étais où ? Ah oui, j'en étais à cette opération turquoise organisée par François Mitterrand pour instaurer ce qu'il appelle une zone humanitaire sûre. C'est-à-dire, on va au Rwanda et on prend un bout du territoire dans lequel on dit il n'y aura plus de massacre. En réalité, cette zone humanitaire n'a été sûre que pour les forces armées rwandaises, c'est-à-dire l'armée rwandaise qui fuyait l'avancée du FPR et qui étaient les assassins. Pour les assassins, cette zone a été sûre. C'est par cette zone qu'ont été exfiltrés, d'une part, tous les responsables du gouvernement rwandais, d'autre part, toutes les forces armées, elles ont été exfiltrées vers ce qui était à l'époque le Zaïre, qui est maintenant la République démocratique du Congo. Et ça a été fait sous la protection de l'armée française. Pendant le même temps, dans cette zone, il y avait par exemple les collines de la région qui s'appelle Bisesero au Rwanda. Et sur ces collines, des Tutsis en fuite avaient réussi à se rassembler et à être assez nombreux pour offrir un peu de résistance. Ils étaient très mal armés, ils étaient armés quand même essentiellement de cailloux et de bâtons, éventuellement pointus les bâtons, mais enfin bon. Mais en tout cas, ceux qui étaient là, ils arrivaient à résister un peu. À un moment, des militaires français sont tombés dans les collines de Bisesero sur un groupe de ces Tutsis qui essayaient de se défendre. Les Tutsis sont venus les voir et leur ont dit « Tous les jours on a des attaques, on va se faire tuer, là on est au bout de la résistance, on n'en peut plus, sauvez-nous, sauvez-nous, sauvez-nous. » Les militaires français ont dit « Oui, attendez, oh là là, on prévient notre hiérarchie, on va voir. » finalement, alors il faut dire qu'un certain nombre de militaires, de soldats de base, étaient quand même un peu dégoûtés par ce qu'ils voyaient et par ce qu'ils étaient obligés de faire, voire ils comprenaient pas entièrement les enjeux. Mais là, du coup, ils passent des coups de fil, des coups de talkie-walkie, tout ça. Ils disent, vous en faites pas, on va faire quelque chose. Mais à la fin, après avoir joint leur hiérarchie, ils disent, ok, bougez pas, on s'en va, on revient, on vous emmène tous. Ils s'en vont et ils reviennent 3 jours plus tard. 3 jours plus tard, quand ils reviennent, il n'y a plus que des cadavres, parce que qui était revenu entre-temps, par contre, c'était les forces armées rwandaises et les Interahamwe, c'est-à-dire les tueurs. Voilà, le Rwanda, l'histoire du Rwanda, l'histoire du génocide rwandais et l'histoire du rôle de la France dans le génocide rwandais, c'est ça. Alors qu'aujourd'hui, il y a un rapport qui parle de l'aveuglement de la France, c'est quand même particulièrement, particulièrement dégueulasse. Alors, pour terminer, écoutez, je ne vais pas vous donner 1000 conseils de lecture, mais je vais vous donner un site internet sur lequel ça vaut toujours le coup d'aller, qui est le site de l'association Survie. Survie qui enquête beaucoup sur les saloperies de la France en Afrique d'une manière générale, qui a sorti des tonnes de choses sur le Rwanda. Et ma foi, j'ai dans les mains, à l'heure où j'enregistre cette info, un petit bouquin qui s'appelle « Un génocide sans importance » de Jean-Paul Gouteux. Jean-Paul Gouteux, un génocide sans importance. C'est aux éditions Time Party. L'exemplaire que j'ai dans les mains coûte 6 euros. J'imagine qu'il existe toujours et peut-être plus ou moins à ce prix-là. Que vous trouverez facilement en le commandant en librairie. Et qui donne là, c'est ridicule ce que je vous ai donné comme détail sur les évidences de cette complicité française.
Radio Canu. Info. Du mercredi.
Et on va clôturer ces informations de mercredi avec un petit agenda qui vous rappelle que ce samedi 10 avril à 14h, place Bellecour, rendez-vous pour manifester pour la fermeture des centres de rétention administratifs, donc les CRA, pour la fermeture de tous les centres de rétention, l'arrêt des constructions en cours. notamment celle de Lyon-Saint-Exupéry, la fin de l'enfermement et des expulsions, la fin des arrestations de migrants et la régularisation des sans-papiers. C'est à 14h place Bellecour, c'est une manifestation qui a été déclarée en préfecture et pour l'instant, on croise les doigts qu'il n'est pas interdite. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine, normalement, pour des infos. À bientôt.
Canu. C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info du mercredi. C'était le Canu Info.